L'année dernière, donc en 2009, le Parlement mondial des religions s'est réuni à Melbourne, en Australie. Le but de cette organisation, le but du Parlement mondial des religions, je cite, c'est de cultiver l'harmonie entre les différentes communautés religieuses et spirituelles dans le monde et d'encourager leur interaction avec le monde et avec ses institutions directrices afin de créer un monde juste, paisible et durable. D'accord? Donc le Parlement mondial des religions, c'est une espèce de vaste lieu de dialogue interreligieux. Et l'une des préoccupations principales de la dernière conférence, l'année dernière, à Melbourne, c'était, je cite encore une fois, c'était de mettre en commun la sagesse de chacun en vue de trouver la paix intérieure. Et voici l'explication qu'on peut trouver sur le site internet de cette organisation. Encore une fois, je cite, le Parlement mondial des religions constitue une possibilité pour les différentes traditions de foi de partager leurs diverses spiritualités avec d'autres qui sont issus ou non de leur tradition. Le Parlement met l'accent sur le fait que ces différentes spiritualités permettent à de nombreux individus de trouver un sens. Le Parlement cherche à montrer que la spiritualité est une ancre dans un monde en perpétuel changement, un atout pour des périodes de crise personnelle ou collective et une source d'identité personnelle et collective. Fin de citation. Donc, si vous avez bien suivi, d'accord, ça veut dire que le christianisme est une communauté religieuse parmi d'autres, une tradition de foi parmi d'autres, une spiritualité parmi d'autres, qui constitue pour les chrétiens une ancre, un atout et une source d'identité personnelle et collective, au même titre, par exemple, que l'islam pour les musulmans ou l'hindouisme pour les hindous. On est tous frères, on a tous le même Dieu, on a tous une partie de la vérité. On cherche tous à gravir la même montagne, mais par des chemins différents. Jésus, Moïse, Mahomet, Bouddha, Confucius, le Dalai Lama, Benoît XVI, sont tous dans le même panier. Ce sont des leaders religieux, n'est-ce pas? Des sages dont nous avons des choses à apprendre. C'est beau, non? Bon, franchement, c'est beau. Sauf que si vous en croyez la Bible, cette idée est tout simplement fausse, archi-fausse et peut-être même blasphématoire. En fait, le fait d'affirmer l'égalité des religions est contraire au christianisme biblique. Si vous voulez être chrétien et croire en même temps à l'égalité des religions, vous devez renoncer à la Bible. Et non seulement vous devez renoncer à la Bible, mais vous devez renoncer à Jésus aussi. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ce matin? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on va étudier un texte qui présente Jésus comme étant infiniment supérieur à n'importe qui d'autre dans le monde qui ait jamais existé et qui existera jamais. C'est un texte inhabituel, je l'ai dit, c'est une généalogie, c'est un texte qui ne retient pas spontanément l'attention du lecteur, et pourtant, c'est un texte fondamental, c'est même l'introduction de tout le Nouveau Testament. Et cette introduction consiste en une généalogie, une succession de noms des ancêtres de Jésus. Et cette généalogie a pour but de présenter le lecteur, de présenter au lecteur le Messie. Comme on va le voir, la généalogie de Jésus présentée ici par l'apôtre Matthieu en guise de témoignage de la messianité de Jésus, cette généalogie atteste le fait que Jésus est de loin la personne la plus importante qui ait jamais existé et qui existera jamais. Il n'y a même pas de comparaison possible entre Jésus et quelque autre être humain qui ait jamais existé. Jésus n'est pas juste un personnage historique intéressant. Il est une personne vivante incontournable. Mais quelle est sa place dans votre vie ce matin? Alors lisons le texte. Évangile selon Matthieu, premier chapitre, premier verset. C'est les premiers versets du Nouveau Testament. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Péretz et Zéra, Pérez engendra Hetzron, Hetzron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salma, Salma engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Yoram, Yoram engendra Ozias, Ozias engendra Yotam, Yotam engendra Ahaz, Ahaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias, Josias engendra Yéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Yéconia engendra Shealtiel, Shealtiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abihud, Abihud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Haïm, Haïm engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Jusqu'ici, mes amis, c'est bien la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons que ta parole est tout entière inspirée par toi et utile pour nous convaincre, pour nous redresser, pour nous éduquer en toute justice. Alors Seigneur, s'il te plaît, utilise ces moments de méditation ce matin pour nous instruire par la puissance agissante de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. On a donc dit que Jésus n'est pas juste un personnage historique intéressant, mais il est une personne vivante, incontournable. Et quelle est sa place dans votre vie? C'est la question que je veux poser ce matin. Il ne fait pas de doute que Matthieu veut introduire Jésus-Christ à ses lecteurs. C'est la première chose qu'il compte faire dans son évangile. Et la première chose que j'aimerais que nous remarquions dans ce texte, c'est la place qu'occupe Abraham dans la première partie de la généalogie, particulièrement dans les deux premiers versets. Matthieu fait remonter la généalogie de Jésus jusqu'à Abraham, mais pas avant Abraham. Abraham est le point de départ. Ça ne veut pas dire qu'Abraham n'avait pas de parents ou d'ancêtres. Mais pour Matthieu, ce qui est important, c'est de faire partir la généalogie de Jésus à partir d'Abraham. Et ce détail a une portée théologique très importante, en fait. La première chose que Matthieu veut que ses lecteurs comprennent, d'accord, en lisant les premiers versets du Nouveau Testament, le premier verset en tout cas de son évangile, c'est que Jésus étant le fils d'Abraham, eh bien c'est lui qui est la descendance que Dieu a promise à Abraham et au travers de laquelle Dieu avait dit, dans le Nouveau Testament, qu'il allait bénir le monde entier. Voici ce que Dieu avait dit à Abraham. « Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance. » Toutes les nations de la terre, Abraham, se diront bénies par ta descendance. Cette promesse de grâce qui concerne, donc vous voyez bien, le monde entier, toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre, cette promesse que Dieu a faite à Abraham à partir du 12e chapitre de la Bible, Genèse chapitre 12, donc on est vraiment au début de l'histoire biblique, cette promesse est venue dans un contexte où si on lisait Genèse depuis le premier chapitre jusqu'au chapitre 11, dans un contexte où on verrait que le monde entier a été maudit à cause de la désobéissance du premier homme à Dieu. Ce que Matthieu est en train de dire ici, dans cette généalogie, par ce détail, ce qu'il est en train de dire au sujet de Jésus, c'est donc que Jésus est venu, en tant que Messie, comme source unique de bénédiction pour un monde entièrement maudit. Il est venu comme source unique de bénédiction pour un monde entièrement maudit. Vous avez peut-être lu le livre « Le monde de Narnia ». Si vous n'avez pas lu le livre, vous avez probablement vu le film, l'un des deux, d'accord ? En tout cas, dans cette histoire, dans le monde de Narnia, le territoire de Narnia demeure dans un hiver perpétuel. C'est tout le temps l'hiver et c'est jamais Noël. Et cet hiver perpétuel est causé par une malédiction exercée par Madame la sorcière blanche. Ok ? C'est une image, mes amis, l'auteur est chrétien, hein, C.S. Lewis, c'est une image de notre monde qui a été maudit sous l'effet du jugement de Dieu suite à la désobéissance originelle du premier homme. Mais dans l'histoire, dans le monde de Narnia, le bruit commence à courir selon lequel le véritable roi de Narnia, qui a été absent pendant longtemps, est sur le point de revenir et de renverser le règne maléfique de la sorcière blanche conformément à d'anciennes prophéties. Ce roi est un lion, vous le savez, du nom d'Aslan. À un moment de l'histoire, les héros décident de rejoindre Aslan. Ok ? Et au fil de leur voyage, ils constatent quelque chose d'extraordinaire. C'est que la neige a commencé à fondre et que l'emprise de la sorcière blanche est en train de faiblir. Et vous imaginez bien que tous les gentils dans l'histoire, qui entendent dire qu'Aslan est sur le point de revenir et que le printemps est sur le point de paraître, tous les gentils sont remplis de joie à cette bonne nouvelle, à cette excellente nouvelle, la fin de l'hiver, pensez-vous ? Matthieu est en train de présenter Jésus, dans cette généalogie de la même manière, si vous voulez. Conformément à une ancienne promesse faite il y a bien longtemps à Abraham, concernant quelque chose que Dieu allait faire pour le monde à travers la descendance d'Abraham, Jésus est bel et bien venu de la lignée d'Abraham, Jésus le fils d'Abraham, pour être effectivement une source de bénédiction pour le monde entier, pour mettre un terme à l'hiver, pour renverser le règne maléfique de la sorcière blanche. C'est en tout cas la première idée que Matthieu veut mettre dans l'esprit de ses lecteurs à travers cette généalogie du Messie. Jésus, par sa venue, réalise l'attente millénaire d'une descendance par laquelle toutes les nations seront bénies. Enfin, les deux premiers versets du Nouveau Testament, vous voyez, Matthieu 1, 1 et Matthieu 1, 2, affirment solennellement la portée universelle de l'espérance biblique. Vous voyez pourquoi Jésus n'est pas juste un personnage historique intéressant parmi d'autres. Vous voyez pourquoi l'espérance biblique n'est pas juste une tradition de foi parmi d'autres traditions de foi. En Jésus de Nazareth, le fils d'Abraham, et en lui seul, Dieu, le créateur du monde entier, dit oui en ce qui concerne sa bénédiction et sa faveur qu'il étend à tous ceux qui se confient en lui. Quelle que soit votre nation d'origine, votre langue, votre éducation ou votre âge. Il y a donc en Jésus quelque chose d'unique, d'incomparable, d'inégalable, une bénédiction parfaite que Jésus est venu présenter au monde. Est-ce que ça vous intéresse de savoir de quel type de bénédiction il s'agit et qu'est-ce qu'il a fait pour la réaliser ? Eh bien, regardons la suite du texte. Et la deuxième chose que j'aimerais que nous remarquions, c'est la place qu'occupe le roi David dans cette généalogie. Il est d'une part le seul qui soit appelé roi, le seul qui porte le titre de roi dans ce texte, bien qu'il y ait de nombreux rois dans la généalogie de Jésus qui sont mentionnés ici. Mais en plus d'être appelé roi, David a le privilège de paraître aux côtés d'Abraham, dans le nom de famille, si vous voulez, de Jésus. Vous avez vu ce qui est dit au premier verset, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est son nom de famille. Ok ? L'importance qui est donnée ici au roi David dans la généalogie de Jésus a aussi une portée théologique très importante. Matthieu veut que ses lecteurs comprennent que Jésus étant le fils de David, eh bien c'est lui qui est le roi promis à Israël, selon l'Ancien Testament. Le roi qui devait être établi pour toujours dans la maison de Dieu et dans le royaume de Dieu et dont le trône serait à jamais affermi, dont le règne durera éternellement selon les paroles de l'Ancien Testament, selon les prophéties de l'Ancien Testament. Ce que Matthieu est en train de dire ici, en disant que Jésus est fils de David, c'est que non seulement Jésus est venu, donc on l'a dit, comme source de bénédiction pour le monde entier, mais il est venu aussi comme roi pour le peuple de Dieu. Jésus est venu comme roi pour le peuple de Dieu. Et cette bénédiction parfaite que Jésus est venu présenter au monde, il la dispense depuis son trône, un trône suprême et éternel. Alors comment est-ce qu'un roi bienveillant fait habituellement pour inviter des peuples étrangers à entrer pleinement au bénéfice de sa bienveillance. Comment ils font les rois bienveillants dans ces cas-là? Il invite les peuples étrangers à lui prêter allégeance, tout simplement. C'est logique, non? Il invite les peuples étrangers à rendre les armes et à accueillir son règne bienveillant. Petite illustration historique et de circonstances. Le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, un armistice est signé pour marquer la fin de la Première Guerre mondiale. Cet armistice prévoyait, dans les termes, dans les clauses de l'armistice, cet armistice prévoyait la cessation des hostilités, la cessation immédiate des hostilités, l'évacuation des pays envahis et l'abandon par l'armée allemande de tout le matériel de guerre. Et vers 11h du matin, ce même jour, le 11 novembre, dans toute la France, des sonneries de cloches et des sonneries de clairons annoncent la fin d'un conflit qui a fait plus de 18 millions de morts. Et le peuple ennemi, pour ainsi dire, a été amené à rendre les armes et, si l'on peut dire, à accueillir le règne bienveillant des alliés. Et Jésus de même ici, dans cette généalogie, est présenté comme celui qui fonde un règne suprême et bienveillant, celui qui triomphe de l'ennemi, le digne fils de David, celui qui délivre le peuple et qui assure pour toujours sa sécurité. Jésus est venu établir son règne, il est venu siéger au milieu de son peuple et il est venu inviter des hommes et des femmes issus de toute nation à lui prêter allégeance, à rendre les armes, à plier le genou, à accueillir son règne bienveillant. Il est le digne fils de David. C'est en tout cas la deuxième idée que Matthieu veut transmettre à ses lecteurs à travers cette généalogie du Messie. Jésus, par sa venue, réalise l'attente millénaire d'un roi qui assure pour le peuple de Dieu la pérennité du royaume de Dieu. Cette généalogie de Jésus, en guise d'introduction donc au Nouveau Testament, affirme donc solennellement, non seulement, on l'a dit, la portée universelle de l'espérance biblique, mais elle affirme solennellement également le caractère suprêmement ou éminemment royal de l'Église. Alors ça, c'est une idée qui choque aujourd'hui. Mais si l'Église est suprêmement royale, si elle a un caractère suprêmement ou éminemment royal parce qu'elle a un roi à sa tête, alors par conséquent, cela veut dire qu'il y a une obligation, que le règne de Jésus implique une obligation qui est elle aussi universelle vis-à-vis de tous les autres peuples. Étant de la lignée de David et de tous ces rois de Juda qui sont mentionnés dans sa généalogie, Jésus a définitivement inauguré le royaume de Dieu. Il est venu pour ça. Et vous faites partie de ce royaume ce matin, vous, mes amis, si vous avez prêté allégeance à Jésus-Christ, mais vous êtes un ennemi de ce royaume si vous résistez à son règne bienveillant dans votre vie. Voyez que l'Église chrétienne n'est pas du tout équivalente au peuple musulman, ou au peuple hindou, ou à quelque autre peuple que ce soit. L'Église, c'est le peuple de Dieu, dont la tête est le roi, c'est Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Jésus règne, écoutez bien, parce que ça, c'est pas politiquement correct, Jésus règne sur ce monde, depuis la droite de Dieu, à travers l'Église. Il exerce son règne dans ce monde par la puissance du Saint-Esprit, mais pas par le moyen des armes et des bombes atomiques, etc. Il exerce par la puissance du Saint-Esprit et par le moyen du sceptre de sa parole, la Bible. C'est un règne infiniment bienveillant. C'est un règne qu'il déploie en faveur de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et j'espère que c'est votre cas ce matin. Mais qu'est-ce qu'il a fait exactement pour réaliser tout ça? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Regardons la fin, la suite et la fin du texte. On a parlé d'Abraham, en premier, on a parlé de David, le roi David, en deuxième. Mais il y a une troisième réalité historique dont Matthieu se sert pour structurer la généalogie de Jésus. L'avez-vous remarqué? Cette troisième réalité historique, c'est la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Si vous voulez, Matthieu a classé, en quelque sorte, il a classé les ancêtres de Jésus en trois parties. La première partie, d'Abraham au roi David. La deuxième partie, de David à la déportation à Babylone. Et la troisième partie, de la déportation à Jésus. Le but de Matthieu ici, ce n'est pas de nous donner une liste exhaustive de tous les ancêtres de Jésus. Ce que Matthieu cherche à nous montrer, particulièrement, c'est la trajectoire de la lignée dont Jésus est issu. Parce que cette trajectoire est très significative. C'est pour cette raison qu'il résume au verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Il veut qu'on garde à l'esprit, qu'on mémorise cette trajectoire de la lignée de Jésus, d'Abraham à Jésus en passant par David et la déportation. Le souci de Matthieu, on peut le dire, sans remettre en question l'exactitude des renseignements qu'il nous livre, mais on peut le dire, le souci de Matthieu est davantage théologique qu'historique ici. Il ne veut pas juste qu'on retienne des informations historiques. Il veut qu'on en tire une leçon pour notre piété personnelle, pour notre foi. Et on a vu l'importance du fait que Jésus soit fils d'Abraham, on a vu l'importance du fait que Jésus soit fils de David, mais maintenant, Matthieu est en train de nous dire en quelque sorte que Jésus est également fils de la déportation. Il est fils d'Abraham, fils de David et fils de la déportation. Le personnage d'Abraham, on l'a vu, il nous a fait penser à la promesse d'une descendance qui serait une source de bénédiction pour le monde. Le personnage du roi David nous a fait penser à la promesse d'un roi qui devait assurer pour le peuple de Dieu la pérennité du royaume de Dieu. Mais à quoi nous fait penser la déportation du peuple à Babylone, sinon au péché du peuple de Dieu, c'est-à-dire à son incapacité à obéir aux exigences du livre de l'Alliance, c'est-à-dire de la loi de Dieu, la loi transmise au peuple par Moïse, qui contenait toutes ces exigences, toutes ces bénédictions promises en cas d'obéissance, mais de terribles malédictions en cas de désobéissance, en cas d'infidélité. Matthieu ici, c'est très important parce que c'est l'introduction au Nouveau Testament, Matthieu est en train de nous montrer que cette déportation à Babylone, dans l'histoire du peuple d'Israël, est un événement historique déterminant, qui donne un sens à la venue de Jésus, au même titre que son lien généalogique avec Abraham et avec David. Et en effet, la déportation du peuple à Babylone a été en quelque sorte l'achèvement ou la consommation, si vous voulez, de la désobéissance du peuple à Dieu. C'est le couronnement de sa désobéissance. C'est le moment où le vase déborde, d'accord ? Et là, Dieu exerce son jugement. C'est la preuve historique qu'il est impossible au peuple de demeurer fidèle à Dieu. Et à plus forte raison, il lui est impossible de mériter sa faveur. Et le Messie est venu précisément pour régler ce problème. Et pour régler ce problème, le Messie s'est identifié au peuple afin de le délivrer. Et Matthieu nous montre d'ailleurs assez subtilement à quel point Jésus s'est humilié pour porter l'opprobre du peuple. Si on regarde en détail cette généalogie, regardons ce qui se passe. Et laissez-moi vous poser une question d'ailleurs. Est-ce que vous avez des ancêtres dans votre arbre généalogique dont vous avez honte ? Il n'est pas rare pour des familles françaises d'avoir parmi leurs ancêtres des gens qui ont collaboré avec les nazis pendant l'occupation allemande dans les années 40. C'est pas rare. Ces gens qui ont de tels ancêtres, ils ne sont pas coupables des crimes de leurs ancêtres. Et pourtant, c'est un peu la honte pour eux, n'est-ce pas ? C'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est une histoire un peu déshonorante. C'est un véritable secret de famille, embarrassant, qu'on cherche à faire oublier, n'est-ce pas ? Vous pouvez imaginer comment ça se passe. Peut-être que c'est votre cas. Eh bien, regardez la généalogie de Jésus. Matthieu ne rajoute pas beaucoup de détails concernant toutes ces personnes dont il fait la liste dans la généalogie du Messie. Mais quand il le fait, quand il rajoute des détails, des précisions, des remarques, ce n'est jamais au hasard. Et ce sont des détails pour le moins embarrassants. Peut-être l'avez-vous remarqué quand on a fait la lecture tout à l'heure. Matthieu remarque, par exemple, il ajoute que la mère de Pérès est Tamar. Il précise que la mère de Boaz est Rahab. Il précise que la mère d'Obed est Ruth. Il précise que la mère de Salomon et la femme d'Uri. Qu'est-ce que ça veut dire, cette précision? Ça veut dire, mes amis, que la lignée du Messie, si on lisait les détails concernant toutes ces histoires dans l'Ancien Testament, ça veut dire que la lignée du Messie est entachée d'inceste, d'impudicité, de prostitution, de paganisme et d'adultère. Voici ce que dit Calvin à ce sujet. Et j'ai trouvé sa remarque très, très pertinente. Il dit « Le Fils de Dieu pouvait bien maintenir son lignage en pureté, l'exempter et préserver de toute méchanceté et infamie. » Il pouvait bien le faire. Mais d'autant qu'il venait en ce monde pour s'anéantir et finalement pour souffrir la mort maudite de la croix, il n'a point refusé de porter encore cette note en son lignage. Voyez, ce que Matthieu veut faire comprendre à ses lecteurs, c'est que Jésus, en tant que fils de la déportation, si l'on peut dire, portant dans son lignage même l'empreinte du péché des hommes, eh bien c'est lui qui est le sauveur promis aux hommes, par lequel ils ont la possibilité d'être pardonnés de leurs péchés et délivrés de la tyrannie de la loi. Jésus s'est humilié par sa venue. Il s'est identifié au peuple de Dieu, et bien que parfaitement juste, il est mort sur la croix, prenant sur lui le poids des péchés de tous ceux qui se confient en lui. Vous comprenez? Le peuple a été déporté à Babylone sous l'effet du jugement de Dieu exercé contre le peuple à cause de sa désobéissance à la loi. Mais l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, explique que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Et un peu plus loin dans le même texte, l'apôtre Paul dit que la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Par la foi. C'est exactement l'idée que Matthieu veut transmettre à ses lecteurs à travers cette généalogie du Messie, en fait. Jésus, par sa venue, réalise l'attente millénaire d'un sauveur qui délivre les hommes de leur culpabilité devant Dieu. Cette généalogie de Jésus affirme donc solennellement non seulement la portée universelle de l'espérance biblique, non seulement l'obligation universelle que constitue le règne de Jésus-Christ, mais aussi l'invitation universelle qui découle de la croix. Il est venu pour bénir, il est venu pour régner, et il est venu pour sauver, d'après la généalogie que nous donne Matthieu. Alors je vous pose une question ce matin. Quelle est la personne qui vous semble être la plus importante de votre vie? Qui c'est qui vous influence le plus dans vos pensées, dans vos actes, dans vos paroles? Est-ce que c'est une personne de votre famille? Ou un collègue que vous aimez bien, que vous admirez? Ou un camarade de classe? Ou un petit ami ou une petite amie? Ou une personnalité politique ou artistique? Ou un philosophe, un maître à penser? Ou un personnage particulier de l'histoire? Même peut-être qui est décédé aujourd'hui? Ou bien est-ce Jésus? Ou bien devrait-ce être Jésus? En 1978, un livre a été écrit qui ensuite a été republié en 92, je crois. Un livre a été écrit par un astrophysicien américain du nom de Michael Hart. S'il y a des Américains ici, peut-être que ça vous dit quelque chose. Michael Hart. Un homme qui s'est également beaucoup intéressé à l'histoire. Et dans son livre, qui s'est beaucoup vendu, il présente les 100 personnalités de l'histoire qu'il considère comme ayant été les plus influentes dans l'histoire de l'humanité. Les 100 personnalités les plus influentes de l'histoire de l'humanité. Jésus apparaît dans la liste en troisième position, derrière Isaac Newton, numéro 2, et Mahomet, number one, le pseudo-prophète Mahomet. En réalité, comme on l'a vu à travers cette généalogie de Jésus présentée par l'apôtre Matthieu, il eût mieux valu que Jésus ne parût pas du tout dans cette liste. Parce que Jésus ne rentre même pas dans la même catégorie. que tous ces autres exemples de personnages importants dans l'histoire. Jésus est hors catégorie. Hors catégorie. Il est une catégorie à lui tout seul. Jésus n'est pas juste un personnage historique intéressant ou important ou influent. Il est une personne vivante incontournable. Et quelle est sa place dans votre vie ? Dans l'introduction de son évangile, Matthieu a donc voulu présenter le Messie. Ce qu'il est en train de montrer à des lecteurs essentiellement juifs d'ailleurs, c'est que Jésus réalise l'espérance millénaire de l'Ancien Testament. Le but de Matthieu, c'est que ses lecteurs croient à cette bonne nouvelle et qu'ils se rallient à Jésus-Christ. Alors si vous croyez toujours ce matin que le christianisme est une communauté religieuse parmi d'autres, une spiritualité parmi d'autres, une tradition de foi parmi d'autres qui constitue pour nous les chrétiens une encre, un atout et une source d'identité au même titre par exemple que l'islam pour les musulmans ou l'hindouisme pour les hindous, je vous laisse pour terminer la conclusion que Matthieu lui-même a jugé utile de donner à son évangile. On a vu l'introduction, on termine avec la conclusion, d'accord ? C'est tout à la fin, chapitre 28. C'est Jésus qui parle. Après qu'il soit mort et ressuscité, après que Jésus ait vaincu l'ennemi, après qu'il se soit assis sur un trône à la droite de Dieu, après qu'il ait établi son règne suprême, éternel et bienveillant. Et c'est Jésus qui parle donc à ses disciples. Et voici ce qu'il dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.